France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Vincent Lacoste. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera de La couleur des choses, roman graphique de Martin Panchaud. 19h45, Affaires en cours par Marie Sorbier. Le verbe « croiver » a désormais un sens propre. Un neuroscientifique chercheur au laboratoire des sciences cognitives et neurologiques de Fribourg, Sébastien Dieguez, nous explique les différences entre nos croyances et nos croyances. 19h50, affaire à suivre en compagnie de la metteuse en scène Maya Sandoz, le tout est réalisé par June Loper avec Florent Bujon et Grégory Wallon à la prise de son. Bonsoir Vincent Lacoste.
Bonsoir.
Très heureux de vous accueillir, sachant que demain vous serez à l'affiche du nouveau film de Nicolas Parizère, Le Parfum Vert, ce qui me donne l'occasion de vous recevoir ce soir. Notez d'ailleurs que Nicolas Parizère sera lui l'invité de ma camarade excellente Mathilde Wagman. Ce sera 22h15 sur cette antenne dans Par les temps qui courent. Alors, pas encore 30 ans, toujours pas.
Non.
Ça va finir par arriver. Vous avez déjà passé plus d'années à être comédien qu'à ne pas l'être.
Ça va pas tarder en tout cas.
Non, ça y est. C'est passé. J'ai sorti mon boulier pour le savoir. C'est quand même à 14 ans qu'on vous a découvert dans Les Beaux Gosses, le film de Riyad Sattouf. Alors depuis, sauf erreur, mais bon, il y a eu 31 autres films, le plus souvent dans des rôles importants. Alors on va revenir ensemble sur quelques étapes de ce parcours quand même très impressionnant. Avant de tourner, Vincent Lacoste, vous aviez vu beaucoup de films avec vos parents, notamment la séance de 10h le dimanche matin. Puis à 12 ans, une passion pour les films de mafia, alors Scorsese, Coppola, De Palma, et puis plus largement les cinéastes du Nouvel Hollywood, qui vous emmènent à voir les films de la Nouvelle Vague, auxquels il se référait pas mal. Pour autant, vous imaginiez un jour être devant les caméras, quand vous étiez donc ce tout jeune homme ?
Non, pas du tout, tout simplement parce que je connaissais personne qui faisait du cinéma autour de moi, et surtout j'avais pas spécialement j'avais l'impression les talents nécessaires à être un acteur, quoi. J'étais plutôt assez discret, assez timide, et donc j'étais pas les récits d'acteurs, il y a toujours on a toujours l'impression que c'est toujours le bout en train de la famille qui est là en train de faire des blagues, etc.
Ou le timide.
Ceci dit, alors voilà, j'étais destiné à être acteur, du coup.
Bon, voilà. Alors, sur vos débuts, je renvoie quand même nos auditrices et auditeurs au tome 1 de la trilogie que vous consacre Riyad Sattouf, le jeune acteur. Je l'avais invité l'an dernier au moment de la sortie de ce roman graphique, c'était en novembre 21. Écoutez cet extrait de notre entretien.
C'est vrai que ça a été une sorte de premier enfant, entre guillemets. C'est-à-dire, je me sentais responsable de l'avoir mis dans le cinéma, alors qu'il n'en avait absolument pas envie. J'avais peur qu'il devienne fou, toxicomane, alcoolique, ou vous savez, qui m'appelle à 4h du matin en me disant « T'as détruit ma vie !» Mais voilà, j'avais très peur de... Donc j'avoue que je me suis transformé en tonton extrêmement rabat-joie. Je voulais qu'il passe son brevet, je voulais qu'il ait son bac, interdiction de boire de l'alcool, évidemment, alors que... Lui et tous les jeunes acteurs du film ne rêvaient que de ça, les joints, etc. J'étais vraiment extrêmement réactionnaire à toutes les fantaisies. Je voulais qu'il joue dans un film. Il était drôle et marrant, mais hors de question que la vie change pour toujours. Au moins, je voulais qu'il finisse ses études. C'était obligatoire. J'ai l'impression des fois d'être un petit grand-père où j'ai l'impression qu'il a toujours 14 ans et que quand là, on a fait des rencontres publiques à l'occasion de la sortie du livre. J'ai l'impression, des fois, je lui dis « Mais t'as bien nettoyé tes mains avant de manger ?» Enfin, j'ai l'impression, des fois, je dis « Mais je suis un pépère ou quoi ?» Il a 27 ans. Enfin, voilà. Et en même temps, ça nous renvoie au temps qui passe et aux gens qui grandissent et qui changent. Et qui, voilà, j'aime bien remonter le temps. Et la bande dessinée est très puissante pour ça, justement.
Alors, vous qui adorez les parrains, Vincent Lacoste, Riyad Sattouf, c'est un autre genre de parrain, mais sur cette surprotection à votre égard, quelques années plus tard, vous en pensez quoi ?
Je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, et je pense que ça, justement, il aurait pu me laisser tomber après le film et se dire, le jeune, voilà, c'est un jeune, donc j'ai plus grand chose à lui dire et faire autre chose. Enfin, lui, il travaillait déjà, c'était un adulte, quoi. C'est vrai qu'il est resté très présent. Ouais, comme un tonton, en fait, comme il dit. Hein, et je pense que ça m'a évité pas mal de... Enfin, après, qu'est-ce qui serait passé si ça n'avait pas été le cas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été une rencontre extrêmement importante dans ma vie. Et c'est quelqu'un qui continue à m'accompagner. Et maintenant, même si on a un rapport beaucoup plus normal, on n'a plus un rapport un peu... On a un rapport amical assez classique maintenant, mais... Malgré, alors des fois c'est vrai qu'il est encore comme ça, il est, il fait des remontrances, il me demande des choses, je dis rien, tu sais, t'inquiète, ça tout va bien, je vis ma vie.
Alors à la fin de l'extrait qu'on a écouté, Riyad Satouf, il parle de la puissance de la BD à remonter le temps. Alors j'ai demandé à lui, mais quelles impressions vous avez eues à la lecture de ce premier tome du jeune acteur?
Oh là, après on l'a un peu construit ensemble.
Bien sûr.
Je savais ce qu'il allait avoir. J'ai été là à toutes les étapes. En fait, il m'a demandé ça faisait très longtemps qu'on en parlait surtout. Et moi, bon, je lui confiais, on se racontait nos vies mutuelles comme deux amis en fait. Donc, et ensuite, au moment du Covid, il m'a demandé de lui refaire par écrit des anecdotes sur ma vie que j'avais racontées, etc. Comme lui faire ma biographie. Ensuite, il l'a dessiné quoi. Après. Moi, j'ai eu un regard assez, au début, assez étonné, parce que je me disais, est-ce que c'est pas un peu tôt pour débuter ses mémoires, quoi. Je me disais, est-ce que c'est vraiment justifié, est-ce que c'est vraiment le moment. Je m'attendais pas à le faire aussitôt, quoi. Vous voyez, déjà, je savais pas si j'allais le faire, mais alors là, à 28 ans à l'époque, mais du coup, là, j'ai un regard maintenant très. C'est comme la continuité de notre collaboration artistique, en fait, parce que. Maintenant, bon, lui, il fait moins de films. Moi, j'en fais plus et lui, il fait surtout des BD. En fait, c'est un peu notre réunion et pour continuer à avoir un peu une histoire artistique, quoi. Donc, c'est assez beau.
Ouais, enfin, en tout cas, il a bien fait. Vous avez bien fait. On attend évidemment la suite avec une certaine impatience. Mais on attendra. Si on reprend le film, Vincent Lacoste, avec ce fait assez troublant que vous avez joué quantité de très jeunes hommes, puis de jeunes hommes, en n'ayant quand même pas la vie normale d'un jeune homme, vous avez joué. Entre guillemets, ce que vous n'avez pas vécu différemment. Alors, je demande souvent aux comédiennes, aux comédiens qui viennent dans cette émission, qu'est-ce qu'ils convoquent de leur propre vie pour incarner tel ou tel personnage. Votre cas est quand même plus mystérieux, plus énigmatique. Comment on joue des choses qu'on n'a pas vraiment vécues?
On imagine. C'est vrai que j'ai été souvent, en fait, au début, notamment quand j'ai commencé à faire des films. Et après, Les Beaux Gosses, qui était un film qui, je pense, a marqué les gens à l'époque, en tout cas marqué les cinéastes. Donc, on me proposait beaucoup de rôles d'adolescents, évidemment, qui voulaient principalement sortir avec des filles. Et bon, c'était leur objectif. Et surtout, beaucoup de post-ados, etc. Et moi, en parallèle, dans ma vie, en fait, j'étais... En fait, Les Beaux Gosses, ça a changé ma vie parce que je suis devenu un adulte directement. J'ai commencé à faire des films. Certes, j'allais encore à l'école un peu pour aller jusqu'au bac, mais j'avais déjà d'autres problématiques. Surtout, je savais ce que je voulais faire. Je gagnais de l'argent. Je suis parti très tôt de chez mes parents. Et du coup, ça, il y avait comme un décalage. Et comment j'ai fait pour incarner tous ces, en imaginant. Après, c'était pas non plus totalement des personnages non plus radicalement opposés à moi, quoi. Mais c'est vrai qu'on me renvoie, on m'a souvent renvoyé, en tout cas, un adolescent à l'époque. Que finalement, j'ai pas vraiment la période de l'adolescence, en tout cas de la post-adolescence, je l'ai un peu sauté, quoi.
Je me demande aussi souvent à tous les artistes d'ailleurs ce qu'ils pensent de la vocation, mais alors vous concernant Vincent Lacoste, votre modestie du tel en souffrir, est-ce que vous pensez que vous avez un don? Parce que quand même, moi je suis quand même toujours époustouflé de vous voir à l'écran, je vous ai vu une fois sur scène. C'était une expérience dans la pièce d'Edouard Baird. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'idée du don?
Je pense qu'il y a... je pense que c'est difficile parce que est-ce que moi j'avais un don au départ? Honnêtement, je ne suis pas persuadé. Peut-être un peu parce que j'avais la sensation que j'avais des facilités à faire rire les gens sans faire grand-chose, quoi. Mais après, un don, ça se travaille. Parce que mon don, je pense, était vraiment petit, par contre. C'était vraiment un petit don. C'était pas un truc éblouissant non plus, quoi. Je pense que j'avais des facilités. Mon don, entre guillemets, c'était plutôt de... J'arrivais à être relativement naturel face à une caméra. Et surtout, j'ai arrivé à écouter les autres et à écouter ce qu'on me disait, à faire ce qu'on me disait, surtout, quoi. Parce que je pense que... Au départ, moi, ça a été beaucoup ça, quoi. J'ai fait vachement confiance à Riyad, et ensuite j'ai compris ce qu'il attendait, et du coup j'ai fait ce qu'il attendait. Mais c'est beaucoup de, j'avais pas forcément de, j'étais très jeune, donc j'avais pas d'idée de comment incarner un rôle, comment incarner un personnage, etc., quoi. Et ensuite, ça, voilà, une petite chose comme ça, peut-être pas un don, mais un don au final quand même, hein, même s'il est petit. Ensuite, ça se travaille, ça évolue, et surtout moi ensuite j'ai compris pourquoi je voulais faire ça. J'ai travaillé, j'ai regardé beaucoup de films, j'ai réfléchi un peu à ce métier sans non plus en faire quelque chose de comment dire, de
théorique seulement.
De théorique, voilà, parce que c'est il y a,
bah, y a en beaucoup fait, de pratiques.
Finalement, il y a beaucoup de pratiques, et ouais, et surtout c'est difficile aussi d'être théorique sur le jeu. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de livres d'écrits sur la théorie du jeu, sur comment il faut interpréter un personnage. Mais en réalité, il y a des gens qui pourront lire autant de théories qu'ils veulent toute leur vie. Ils seront jamais bons, et d'autres qui ne liront jamais ces théories et qui seront excellents, quoi.
Alors justement, sur le fait de grandir, d'apprendre, on a le sentiment que vous avez grandi avec les tournages, que finalement votre métier, vous l'avez appris en le faisant.
Ouais, voilà, c'est plutôt ça, en fait.
Il y en a sans doute qui comptent davantage que d'autres. Je ne minore aucun film, mais je voudrais vous proposer quelques titres pour nous dire ce que si ces films-là, ils ont fait avancer des choses chez vous. Le premier que j'ai envie de citer, c'était une invitée l'an dernier, c'était Julie Delpy, le Skylab, sorti en 2011. Ouais. Il se passe quoi pour vous sur ce tournage? Vous êtes encore très jeune, hein. Vous avez quoi, 16 ans?
J'avais 16 ans, ouais. Je passais le bac de français. Là, c'était super parce que c'était la première fois où je faisais un film, parce qu'après Les Beaux Gosses, j'ai fait quelques films qui m'ont moins plu. Et là, pour la première fois, j'ai compris que je voulais faire des films des films d'auteur, en fait. Des films qui, parce que j'ai rencontré Julie Delpy et j'ai eu un peu la même sensation, en différent, bien sûr, mais que de quand j'avais rencontré Riyad, où je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux faire, je veux incarner les idées et l'univers de personnes que j'admire, en fait, quoi. Ouais. Julie, je l'ai admirée directement et elle m'a amené à un endroit de comédie, pour le coup, que je trouvais vachement marrant. Je me suis amusé, et surtout j'avais l'impression de faire quelque chose de bien, quoi. Et c'est ça, je pense que c'est ça que j'ai compris sur ce tournage, c'est le type de film que j'avais envie de faire. Parce qu'avant ça, on a beau avoir des goûts de cinéma, etc., bon, j'avais 15 ans, je savais pas trop quoi, vers où là j'allais me diriger. Surtout, je savais pas si ça allait s'arrêter ou si on allait me proposer des films. Donc, tous les films qu'on me proposait, je les acceptais, quoi. Et là, j'ai compris cette chose-là, ouais.
Un autre film important, me semble-t-il, dans un autre domaine, Hippocrate de Thomas Lelty, c'était en 2014.
Bah, Hippocrate, c'est le film a changé beaucoup de choses pour moi, parce que déjà, c'est la première fois que j'incarnais un rôle un peu sérieux, un rôle qui avait un métier. Et un rôle justement qui était plus seulement un adolescent un peu classique, quoi. C'est-à-dire là, c'était un interne en médecine. Le rôle était un peu plus adulte que moi-même je ne l'étais, parce qu'en fait, j'incarnais quelqu'un qui avait, je sais pas, plus de 25 ans et qui était confronté à des problématiques de médecin, donc à la mort, à la maladie, etc. Et donc ça a surtout changé le regard des gens sur moi, en fait, parce que les gens se sont dit que j'étais vraiment acteur à ce moment-là et pas juste que j'étais un jeune gars qui se branlait dans des chaussettes, quoi. Et donc on a commencé à me proposer d'autres films différents et tout ça.
Allez, encore un autre que j'ai revu il y a pas très longtemps d'ailleurs. Tiens, Victoria, Justine Triet, 2016.
J'aime beaucoup ce film aussi. Et là c'est encore différent. C'est la première fois que je faisais un rôle un peu plus dans la séduction. Un rôle un peu de, comment dire, de maturité virile, quoi.
C'est vrai.
Tout d'un coup, j'étais un peu, au début, je suis un peu l'espèce de boy next door. Et à la fin, on se rend compte que vraiment, je suis séduisant, quoi. Enfin, le personnage, bien sûr. Mais du coup, ça a amené d'autres rôles. Ça a amené, après, les films de Christophe Honoré, des choses différentes qui sont beaucoup plus sur le côté un peu acteur séduisant, entre guillemets, quoi. Ce que j'avais pas du tout au début, puisque j'avais vraiment commencé par un film où j'étais extrêmement laid. Donc en fait, moi je me disais, au moment des Beaux Gosses, bon, ma vie est finie, quoi. Même si je suis acteur, je vais faire vraiment des films où je vais être laid toute ma vie, quoi. Donc là, quand on a commencé à me proposer des personnages beaux, en fait, parce que c'est ça, mine de rien, c'est quand on vous donne à jouer des gens qui sont séduisants, ensuite les gens pensent que vous êtes séduisant. Et si on vous donne des personnages de moches, les gens pensent que vous êtes moche. Alors que vous êtes toujours pareil, vous avez une tête un peu bizarre, bon voilà.
Bon, je crois que le côté séduisant l'a quand même définitivement remporté. Mais alors, puisque vous l'évoquez, pour varier les plaisirs, on va écouter Christophe Honoré sur France Culture au moment de la sortie de Plaire, aimer et courir vite.
Le travail vraiment avec les acteurs, de par la langue que je leur propose, il y a un travail particulier en fait sur le dialogue, de je ne sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que j'ai compris qu'à un moment, grâce à ces acteurs, le film allait devenir meilleur que ce que j'avais écrit. Il y a des films en fait où la mise en scène est dominante, je ne sais pas comment vous dire ça, sur les acteurs, elle prend le pouvoir sur les acteurs. Là, moi, au bout d'un certain nombre de jours de tournage, j'ai senti qu'ils en savaient plus que moi sur leurs personnages et qu'il fallait que je les regarde vivre et que je les laisse vivre en fait dans le film. Donc je dis ça et en même temps je sais que je suis assez précis avec mes acteurs, mais je fais toujours en sorte que ce soit pas des performances. Moi j'ai pas beaucoup de goût pour la performance d'acteur. Alors là c'est vrai qu'il y a aussi des scènes érotiques, il y a une sensualité, une tendresse en fait à exprimer dans le film. Et donc, ça a été une des discussions, mais assez simples, hein, assez rapides, au bout du compte, avec chacun d'eux, pour savoir ce que j'avais le droit de filmer, tout simplement.
Alors, Plaire, aimer et courir vite, Vincent Lacoste, encore une étape dans cette filmographie. Qu'est-ce que vous pensez de ce que vient de dire Christophe Honoré sur la part de l'acteur, acteur-créateur?
Ça me fait plaisir déjà, mais surtout, Christophe, après, il dit ça, en même temps, c'est un directeur d'acteurs génial, donc c'est ça le paradoxe, quoi. Et puis aussi, il écrit extrêmement bien les dialogues, il écrit des super scènes, donc d'une certaine manière, je fais tous ces films avec lui parce que, déjà, je trouve que c'est un cinéaste génial, mais en plus, c'est les films où je prends le plus de plaisir à jouer. Parce que les scènes à jouer, les situations, je trouve que tout est d'une justesse incroyable et qu'il a un sens de, en même temps du cinéma, qui mélange avec la réalité et tout ça crée son univers, quoi. Et oui, moi je suis d'accord. Il y a des films qui sont incarnés par des acteurs. C'est l'histoire du cinéma. De toute façon, les grands acteurs, quand on voit dans les films. On se dit, ce rôle-là était fait pour lui et ça pourrait pas être avec quelqu'un d'autre, quoi. Donc là, je sais pas si c'est ça, hein, je parle pas de moi, là.
Bah, il parlait de vous, là,
ça, mais notamment. En tout cas, oui, ça me fait plaisir. Et je pense que, c'est surtout chaque film est une rencontre de toute façon entre une actrice, un acteur et le personnage qu'il a joué, en fait. Donc ce personnage... Si l'endroit de rencontre du personnage et de l'acteur est bien choisi et juste, à ce moment-là, c'est ça qui donne des grands rôles.
Alors, c'était Riyad Sattouf, Julie Delpy, Thomas Letty. Ce sont des cinéastes avec qui vous avez tourné deux fois. Maintenant, ça fait trois avec Christophe Honoré. Ça permet quoi, Vincent Lacoste, de retrouver des metteurs en scène, des auteurs?
Moi, c'est tout ce que j'aime, tout simplement, parce que des fois, j'adore voir les collaborations au cinéma entre des acteurs et des auteurs. Et donc... j'ai envie de faire la même chose que quand j'aime faire des films avec des gens. J'ai Christophe Honoré, je regardais ses films quand j'étais plus jeune. Je regardais les chansons d'amour, La belle personne, et je me disais j'aimerais bien faire un film avec lui plus tard, quoi. Donc, à partir du moment où j'ai été acteur, donc.
Et de leur côté, ils vous connaissent.
Quand j'ai réussi à lui mettre le grappin dessus, maintenant je le lâche plus, quoi.
À lui non plus, il vous lâche plus, mais du coup le. C'est plus une première rencontre. Ça permet. Est-ce que vous pensez que dans son écriture, dans la façon de vous diriger, les choses vont plus vite et plus loin surtout?
Ouais, je sais pas. C'est une collaboration. Au bout d'un moment, on se fait plus confiance. Et Christophe, il essaie toujours de m'amener ailleurs, en fait, de m'écrire des rôles différents. Donc ça, c'est super agréable. C'est-à-dire que c'est une collaboration. Il fait des films que j'aime et en plus, il m'écrit des rôles différents. Donc moi, je peux pas rêver mieux, quoi. Et Thomas Letty, c'est pareil. Thomas Letty, c'est à la limite, c'est plus dans un côté d'alter ego à chaque fois, où il me fait un personnage un peu qui lui ressemble. Mais c'est des collaborations que j'adore, en fait, parce que c'est des. Tout simplement, ils font des films que j'aime et j'aime travailler avec eux, donc j'ai envie de continuer à en faire. C'est ça le sens de ce métier pour moi, quoi.
Alors, vous disiez que vous avez vu beaucoup de films aussi, Vincent Lacoste, avant et après être devenu comédien. On va parler dans un instant du Parfum Vert de Nicolas Parizer, qui sort demain dans les salles. Alors, j'ai demandé à votre partenaire dans ce film, Sandrine Kiberlin, quelles questions elle aimerait vous poser. Alors d'abord, elle m'a dit qu'il fallait que je précise qu'elle s'est creusé la tête.
Ah bon ?
Suite à ma demande. Donc je le précise. Non, mais alors, bon, la question Sandrine Kiberlin pour vous, Vincent Lacoste. Quel est le rôle qui existe que vous auriez rêvé jouer ?
Quel est le rôle qui existe ?
Ouais.
Oh là, moi j'aurais aimé faire... Il y en a plein, mais moi j'aurais bien aimé faire un DT, le privé de Altman.
Elliot Gould ?
Ouais, Elliot Gould, ça m'aurait bien plu.
Capillairement, ça va.
Capillairement, ça va. Même,
mais pas que.
Franchement.
Ah ouais, celui-là.
Ouais, moi j'aurais bien aimé faire ça. Bah, parce que j'adore le film. J'aimerais bien faire un film dans ce genre-là, en fait. Un truc un peu. Une espèce d'enquête un peu bizarre. Enfin, mais un peu. Comment dire, après, ça, c'est vraiment un film des années 70, quoi. Donc,
parce que l'enquête est un peu bizarre, on y arrive, hein, c'est le parfum vert quand même.
Oui, oui, en effet, ouais, c'est vrai que j'aurais vraiment aimé faire un film comme ça, mais ça tombe bien.
Ça tombe bien, il sort demain. Bon, c'est bien.
C'est bon, ça.
Bon, je retiens.
Non, mais vous voyez, dans un côté un peu comme ça, un peu. Je sais pas, mais.
On retourne au Nouvel Hollywood.
Cool, quoi. Ouais, ouais. Nouvel Hollywood, quoi.
Oui, quand même, encore une
j'avais
fois.
Avec Cartman en plus.
Bah, tant qu'à faire.
C'est pas le pire. Hein.
Alors, juste avant ce parfum vert, on va découvrir votre choix musical, qui n'a pas manqué de me surprendre. A Row Through Me, Paul McCartney et les Wings.
Ah oui, oui.
Un morceau qui est sorti bien avant votre naissance. Alors, pourquoi ce choix, Vincent Lacoste ?
Je sais pas, j'écoute un peu les Wings en ce moment, et j'adore Paul McCartney. En fait, j'ai toujours été. Bon, évidemment, je suis un immense fan des Beatles. Mais j'étais très très Lennon pendant longtemps, et je le suis encore d'ailleurs. Mais quand même, Paul McCartney a fait des choses pas mal dans cette chanson.
Voilà la raison de ce choix, voilà pourquoi on écoute « Arrow Through Me ».
Rain.
Arrow Through Me, Paul McCartney et les Wings, choix musical de Vincent Lacoste.
Ça aurait pu être dans le privé d'ailleurs cette chanson.
Oui, c'est vrai.
Elle est bien groovy comme il faut. Quoi.
Elle est un petit peu plus récente, de quelques années. Le Parfum Vert, ça sort demain et ça succède dans la filmographie de Nicolas Parizer à Alice et le Maire, qui avait notamment valu à Anaïs de Moustier le César de la meilleure actrice, rappelons-le. Le Parfum Vert, comédie d'espionnage, double influence, Hergé, Hitchcock, période anglaise. D'ailleurs, la première fois qu'on vous voit dans le film, vous êtes habillé comme Tintin,
ouais,
Vincent Lacoste, exactement comme Tintin. Ça commence par mort à la Comédie Française, en pleine représentation, je ne divulgage pas trop, c'est vraiment les premières secondes du film. Vous jouez Martin, comédien à la Comédie Française, qui recueille les dernières paroles de ce collègue qui meurt en scène. Il va lui arriver beaucoup, beaucoup de choses, et je ne divulgage encore rien, je ne diffuse pas la bande-annonce qui en dit trop, et il va rencontrer une dessinatrice de bande dessinée, Claire, qui va lui venir en aide. Pour l'anecdote, dire que Jenna Thiam, qui joue une des comédiennes du français dans le film, était la formidable interprète de l'adaptation théâtrale d'Illusion perdue de Pauline Bell, non moins formidable. Et la tout aussi formidable Léonie Simaga, qui joue le contre-espionnage français, est elle une très grande interprète de la troupe de la Comédie Française, où elle a joué les plus grands rôles. Fin de la parenthèse. Reprenons les choses dans l'ordre. Vincent Lacoste, qu'est-ce qui vous fait accepter ou refuser un rôle ?
Le ou la cinéaste déjà. Si c'est quelqu'un que j'aime ou si c'est quelqu'un que j'aime pas, évidemment.
C'est bien.
Ensuite, si c'est quelqu'un que j'aime pas, donc bon, a priori, ça me fait le refuser. Ensuite, il y a évidemment le scénario. Dans le cas des premiers films aussi, je regarde les courts-métrages. Bon, s'il y a rien, je lis le scénario et j'essaie de discuter histoire de voir un peu la vision de la personne. Et en fait, c'est un package. Hein. Après, il y a les partenaires aussi, évidemment. Mais bon, ça, c'est secondaire. Parce que j'ai vraiment envie de faire un film. Enfin, ceci dit, là, je savais dès le départ que ça allait être avec Sandrine Kiberlain, donc ça m'a donné envie, quoi. Forcément, parce que j'avais le duo en tête dès le départ. Et sinon, c'est l'histoire, un rôle intéressant. C'est un peu tout, en fait. Hein. Mais c'est surtout le cinéaste, quand même.
Quelles sont justement les indications, le travail préalable avec Nicolas Parizer pour la préparation de ce film ? Est-ce qu'il a une méthode à lui ?
Non, il laisse ses acteurs vraiment libres. Il m'a filé quelques Hitchcock que j'avais pas vu du coup de la période anglaise, notamment Une femme disparaît. Les 39 marches, ça j'avais vu déjà, mais Une femme disparaît notamment, dont le film est très inspiré.
Une séquence dans un train. Notamment.
Voilà, exactement. Voilà, en fait, j'ai relu des Tintins, mais c'était de mon fait, quoi. C'est-à-dire, il m'a pas demandé de faire ça. Lui, il aime pas les répétitions. Donc, en fait, ça s'est fait assez sur le tournage, assez spontanément, quoi. Hein. Il écrit les dialogues. Il est plutôt très attentif à ses dialogues. C'est vraiment un comique de situation. Donc, ça se répète pas vraiment. Et après, non, c'est les dialogues. Et sur le moment, quoi.
Et vous, est-ce que vous avez une méthode, alors pour le Parfum Vert, mais peut-être d'une façon plus générale, avant le tournage, est-ce que, je sais pas, vous avez un petit carnet, vous notez des choses sur votre personnage, est-ce que vous lui inventez sa vie d'avant, des choses comme ça ?
Oh là, non.
Non ?
Enfin, si, des fois, moi, je fais la trajectoire du personnage, en fait. Donc, en fait, je commence, je lis tout le scénario, et ensuite, alors, on tourne souvent dans l'ordre, dans le désordre, donc... des fois, c'est un peu confusant parce qu'on ne sait plus ce qu'on joue, quoi, étant donné qu'on joue la fin au début, etc. Donc, j'apprends tout le scénario par cœur en général avant de commencer à tourner. Quand j'ai le temps, parce que si j'enchaîne trop les films, comme ça m'est arrivé dernièrement, du coup, j'ai pas le temps de tout apprendre. Donc, je fais par bloc de 3 semaines, par exemple, j'apprends 3 semaines, ensuite machin, je regarde un peu les choses comme ça. Et là, en l'occurrence, j'avais appris une bonne partie du film avant. Le maximum, j'ai essayé d'apprendre. Comme ça, ensuite, je suis plus embarrassé par le texte. Et j'aime bien connaître le texte tellement bien qu'en fait, je l'oublie après, quoi. Et du coup, voilà, en fait. Et ensuite, ça me permet de tracer une ligne on va dire les émotions du personnage, quoi. Mais je fais pas de choses, je réfléchis pas au passif, je réfléchis plus à la limite à sa manière de se déplacer avec les vêtements, etc. Ou plus des choses comme ça, quoi, des choses plus visuelles, mais pas trop
Parce que par exemple, Martin, que vous jouez, on ne sait pas trop quelle est sa place dans la troupe, on ne sait pas quel rôle il joue dans la pièce.
Non, non, moi non plus.
On l'imagine pas premier rôle quand même.
Non, hein. non. Mais ça c'est dit, parce qu'il dit à un moment donné que c'est un acteur assez moyen.
Oui, mais ça c'est lui qui le dit, et ça fait partie de son charme.
C'est lui qui le dit, oui, voilà, ça fait partie de son charme, mais je pense qu'il a raison. C'est ce que je me suis raconté en tout cas, mais après... Voilà, on sait qu'il est en instance de divorce, donc il divorce, on sait qu'il a un enfant. Sinon, on sait pas trop quel rôle. Et à vrai dire, j'ai pas trop réfléchi à ça.
Oui,
parce que
vous en comprenez pas de ça.
Bah non, parce que le film n'en parle pas.
Le film est sur le présent, on ne peut plus le présent.
Le film est sur le présent, sur une enquête, etc. Donc je me demande ce que le personnage pense dans la situation où il est, quoi.
Y a quand même une chose, forcément, qui vous est propre, elle est à toutes, hein, mais c'est votre voix. Vincent Lacoste, mais il y a une musique de votre voix, il y a un phrasé qui est quand même reconnaissable entre tous, alors qui est souvent très rapide mais très précis, très musical. Mais alors, ce que vous venez de dire, le fait d'apprendre le plus possible votre texte avant, c'est ça qui permet après de jouer sur la rapidité, sur la musique.
Bah, c'est mon côté un peu maniaque après peut-être, mais moi j'aime bien parler vite et surtout j'aime bien... j'aime bien, je déteste hésiter sur le texte ou au milieu d'une scène ne plus me rappeler. J'aime vraiment être en totale possession de mes moyens, quoi.
Mais c'est vite, mais intelligible. Ça qui est rare.
Ah oui, bah ça c'est parce que oui, j'essaie d'articuler, quoi. Ou alors je le refais quand j'ai pas bien articulé, je le refais et puis voilà.
Vous êtes maniaque là-dessus ?
Non, ça non, c'est ma manière de m'exprimer, honnêtement. C'est juste, je parle comme ça, quoi. Mais sinon, non, c'est sur le texte. Moi, j'adore les textes, en fait, c'est ce que je préfère. C'est dire des textes. Alors, si je connais pas le texte, forcément, bon, pour le dire, c'est plus emmerdant, quoi.
Mais vous parlez de la rapidité. Il y a ce qui est aussi très beau dans ce film, Le Parfum Vert, c'est qu'il y a, aussi, tout d'un coup, alors je sais pas à quelle minute du film, comme une sorte de temps un peu suspendu. On va dire que c'est la scène des spaghettis. Ceux qui découvriront demain verront de quoi je parle. Demain seulement, attendez. Et là, tout d'un coup, il se joue tout à fait autre chose entre Sandrine Kiberlain et vous, dans ce huis clos, dans une cuisine, puis un tout petit peu après dans le salon. Là, c'est vraiment, c'est le corps, c'est le regard, c'est tout autre chose que le texte qui se joue là.
Ah oui, bien sûr, bah, ça c'est sûr, on joue pas que le texte. Ça c'est, oui, il y a une histoire de je sais pas s'il faut...
De séduction, sans doute.
Il y a une histoire de séduction...
Attirance.
Oui, bah ça c'est dans le, bah là c'est beaucoup plus du coup sensoriel, quoi. Ça c'est vrai que
c'est chorégraphié, ça, par exemple. Enfin, au sens, est-ce que votre metteur en scène est très précis là-dessus?
Ouais, il était assez précis là-dessus, ouais. Ouais. Enfin, vous voulez dire sur les pattes?
Sur cette scène-là des pattes. Ouais.
Ah là, non. Bah là, je me suis démerdé parce qu'en fait, elle avait un très long dialogue et en effet, il fallait qu'il y ait un jeu de séduction qui se joue et qu'en parallèle, je fasse des pattes. Donc, mais évidemment, je vais réellement faire des pattes. Donc c'était tout un bordel parce que je devais mettre la sauce tomate, enfin j'avais vraiment préparé un plat de pâtes pendant la, et donc pendant la première prise j'ai été totalement débordé parce que j'avais, la scène est assez longue, mais bon, pour faire des pâtes c'était quand même assez rapide, quoi. Donc j'ai dû vraiment me dépêcher, ensuite mettre la sauce tomate, donc en fait j'ai fait vraiment comme j'ai pu, quoi. Bon, ensuite à la deuxième j'en ai fait une plus en mode
elles étaient meilleures, les pâtes,
voilà, en chef de pasta, quoi.
Ah, c'était très réussi.
Ouais. Alors, en fait, t'étais bonne, ouais.
Vincent Lacoste, je l'ai dit, vous allez bientôt avoir 30 ans, hein, c'est pour l'an prochain, 2023. On vous souhaite bien sûr une très longue et belle carrière, mais une carrière, ça dépend, encore une fois, des choix que vous ferez. Avant d'en parler, on va écouter Michel Piccoli, parce que c'est toujours bien d'écouter Michel Piccoli.
Bah, oui,
c'était carrément. En 2007, sur France Culture, au micro de Laure Adler.
Comment est-ce que l'on peut être maître de son destin, si je puis dire, ou maître des destins qu'on peut avoir, parce qu'on peut changer de destin au cours d'une vie de luxe ou de pauvreté artistique, non ? Et quelquefois, les agences sont extrêmement utiles pour nous, comédiens encore inconnus, et les agents, à une époque, les agents voyageaient sur les plateaux, il n'y avait pas de comment ça s'appelle, casting director. Il y avait des metteurs en scène et des assistants qui vous regardaient sous le nez et qui vous demandaient de passer une audition, de faire un bout d'essai. Maintenant, ça n'existe plus, ça. Et alors, entre savoir, est-ce qu'il faut se faire payer très peu, pas du tout, ou être en quête de se faire payer extrêmement cher pour devenir une...
vedette.
Une star. Et je ne sais pas très bien ce qu'est l'argent, comme me disaient mes parents. Tu ne mettras jamais de côté. Mais j'ai mis de côté autre chose. J'ai mis de côté la possibilité de toujours faire des exercices avec des réalisateurs ou des auteurs que je découvrais. Et avec Buñuel, j'ai réussi à me faire découvrir, je dois dire.
Vincent Lacoste, un commentaire sur ces paroles du sage et fantasque, toujours ouais. Michel Piccoli.
Ben, je pense qu'il a totalement raison. Enfin, en tout cas, moi, je vois tout. Bon, après, c'est Michel Piccoli, donc il a. Non, mais en attendant, c'est la personne, je pense, qui a la filmographie, l'acteur qui a la filmographie la plus impressionnante de peut-être de toute l'histoire du cinéma. Donc, force est de constater qu'il avait raison, quoi. Et moi, je pense qu'il faut totalement suivre l'exemple de Michel Piccoli, c'est-à-dire choisir les auteurs, en fait. Choisir les auteurs et toute sa vie, il s'est acharné à faire ça. Parce que c'est vrai que quand on est acteur, il y a tout un tas de tentations à un moment donné, que ça soit, oui, l'argent, les choses faciles, les. Bon, les parce que quand vous commencez à avoir du succès, on vous propose un peu tout, quoi. Mmh. Des fois, on peut être tenté d'aller vers des choses pour d'autres raisons que des raisons artistiques, quoi. Mmh. Alors que je pense que ça doit être la raison principale, toujours.
Toujours. Il me reste à rappeler, Vincent Lacoste, que vous serez demain à l'affiche de l'excellent nouveau film de Nicolas Parizère, Le Parfum Vert. Et je rappelle que Nicolas Parizère, on va l'entendre tout à l'heure sur France Culture à 22h15 dans Par les temps qui courent au micro de Mathilde Wagman. Merci infiniment, Vincent Lacoste, d'être venu nous voir ce soir.
Vous.
France Culture. Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
C'est l'heure d'Affaires critiques, mais Lucille Comeau étant souffrante, on pense bien sûr à elle, je vous propose ce soir de retrouver une de ses chroniques qui pourrait finir peut-être sous le sapin, en tout cas son objet, pas la chronique. Hein. Le 11 octobre dernier, elle nous parlait du nouveau roman graphique de Martin Panchaud.
Oui, j'aime beaucoup cet objet, je pense que j'y reviendrai, tant il est singulier et attachant. Pas facile en revanche à décrire, mais bon, je me lance.
C'est votre boulot.
C'est un roman graphique, dont l'action est presque systématiquement vue de haut, sans perspective, et les personnages sont réduits à de petits ronds bicolores, un peu comme des chapeaux vus du dessus. Ils circulent dans des pages hétérogènes, certaines sont constituées de cases, d'autres proposent des zooms sur des objets ou des lieux. Certaines choses sortent de la case pour être dessinées de manière hyper réaliste, comme des gravures, des détails anatomiques, des pièces de monnaie, des verres de whisky ou de coca, d'autres encore ressemblent à des schémas de livres d'école, celle par exemple qui détaille la vie d'une baleine bleue. Beaucoup de flèches, de pointillés, beaucoup de choses en couleur. Martin Panchaud est un graphiste suisse. L'album a paru d'abord en langue allemande. Il a avant commis plusieurs travaux pour des magazines dans le même style. J'ai vu notamment des dessins hyper précis de vaisseaux de Star Wars qui m'ont réjoui. On sent une filiation assez nette avec la manière de Chris Ware. Et d'ailleurs, l'action se situe dans un lieu assez proche de ce que le maître américain dessine. Une banlieue, en l'occurrence anglaise, des parcs où les jeunes se retrouvent après l'école, des intérieurs modestes, etc. C'est un objet compliqué, donc ça peut effrayé au départ, je vous décris la première scène. Un jeune garçon doit livrer un gâteau à une amie de sa mère. Il se fait arrêter en route par une bande de jeunes qui le harcèlent et finissent par l'embarquer dans une combine louche. Les personnages sont donc tous des petits ronds de la même dimension. Alors certains sont verts, d'autres marrons, d'autres roses. Le gâteau, lui aussi, évidemment, est rond. Il faut se repérer dans le système de fléchage. Pas simple.
Mais alors, qu'est-ce qui fait avec cette complexité qu'on s'accroche finalement à la lecture ?
Eh bien déjà, la très grande intelligence de cet album, c'est de compenser la complexité et l'éparpillement graphique en proposant un récit hyper référencé dans lequel tout amateur de cinéma, de série se retrouvera. On se situe entre le teen movie et le thriller. C'est l'histoire de Simon Hope, donc un jeune garçon anglais. Il vit avec des parents qui ne s'entendent pas. Il se fait victimiser par ses camarades. Et un jour, il va voir une voyante qui lui donne des conseils pour gagner aux courses. Bingo, il gagne d'un coup des millions de livres, il court chez lui pour demander l'autorisation à ses parents de récupérer cet argent qui va tout changer, mais c'est pour y faire une terrible découverte. Des barlouges, des motards menaçant un détective privé, beaucoup de verres de whisky, la couleur des choses nous balade en terre connue, mais sans négliger pour autant la fiction au profit du dessin. C'est assez drôle, notamment cette histoire de baleine bleue qui a l'air absurde, mais qui trouve tout son sens dans un final excellent. Martin Panchaud réussit à faire vivre ses personnages, pions colorés dont les attributs physiques existent pourtant. Par exemple, Simon Hope, le héros, il est gros, c'est dit en permanence par ses camarades. Plus tard, on apprend qu'il ressemble quand même beaucoup à un autre personnage. Évidemment, tout ça, on ne le voit pas, puisque ce sont des ronds. Hein. Simon est un rond marron clair et marron foncé. Il est de la même taille que les autres, mais on le sait quand même, on le croit. C'est un travail considérable de créer cet effet de réel et d'empathie avec ces moyens graphiques-là, et ça passe par un amour du détail visible à chaque page, sorte de prolifération qui fait penser aux jeux vidéo. Dans la maison de Simon, vue du dessus, on voit sa chambre en désordre, avec une couette fusée, des stylos partout, des magazines sous le lit, les détails mécaniques des motos des trois méchants, ou la reproduction au minuscule bouton près d'un enregistreur de poche. L'amour du récit et de ses lecteurs est dans le détail.
Ben, vous avez remarqué que Marie Sorbier et moi sommes un peu interloqués par cette description.
Mais oui, mais alors là, je vais vous montrer. Non, mais je comprends, c'est vrai que c'est très bizarre, mais c'est vraiment super bien.
Bon, on va regarder ça de près, j'espère que vous l'avez au bureau. Hein. La couleur des choses de Martin Panchaud, apparu aux éditions, excellentes éditions. Ça et là. Affaire en cours à présent avec vous, Marie Sorbier. Bonsoir.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, vous nous expliquez le sens d'un néologisme. Attention, ça fait mal aux oreilles. Le verbe croiver.
Oui, ce verbe et ses déclinaisons qui grincent un peu à nos oreilles, hein, je vous l'accorde, Arnaud, est un concept qui désigne des croyances qui n'en sont pas vraiment. Les croivances, donc, ce sont des pseudo-croyances qui affectent notre compréhension du monde et des autres. Alors, par exemple, en l'état actuel de nos connaissances scientifiques, peut-on réellement croire que la Terre est plate? Alors, je suis allée demander à Sébastien Dieguez de nous expliquer de quoi sont faites nos croyances. Sébastien Dieguez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes neuroscientifique, chercheur au laboratoire des sciences cognitives et neurologiques de l'Université de Fribourg. Vous avez créé ce néologisme. Pourquoi, selon vous, avions-nous besoin d'un mot nouveau qu'expriment les croyances que les croyances ne disaient pas?
Le verbe croiver, généralement, il est associé à pas mal de blagues hein, qui circulent sur les réseaux sociaux. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font la faute d'accord grammatical sans faire exprès, mais d'autres l'utilisent délibérément pour se moquer les uns des autres. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être donner un nouveau sens à ce terme, puis l'utiliser d'une manière plus constructive et plus technique, donc pas pour se moquer hein, des croyances ou des croyances des uns ou des autres, mais pour essayer d'y voir plus clair. Et c'est vrai que quand on pense aux croyances, à l'utilisation du verbe croire, on va assez rapidement au devant de pas mal de confusion. C'est un terme qui est difficile à utiliser, c'est difficile d'en déterminer les contours. Et je me suis dit qu'en séparant croyances et croyances, peut-être qu'on pourrait éventuellement commencer à y voir plus clair. Donc c'est vraiment dans un usage de clarification que j'essaye de l'utiliser.
Est-ce que l'homme de 2022 se définit par ses croyances? Et si oui, avoir des croyances à contre-courant, donc ces fameuses croyances, comme vous les appelez, est-ce une façon de se distinguer?
Oui, je pense que les croyances ont un vernis un peu social et utilitariste, si vous voulez. On s'en sert à des fins différentes de celles des croyances ordinaires. Et les croyances ordinaires... elles sont absolument pas problématiques. On a tous des tonnes et des tonnes de croyances sur tout un tas de choses au quotidien qui posent aucun problème. Est-ce que le sol va se dérober? Est-ce qu'il est possible de passer à travers les murs? On considère pas ces choses-là comme des croyances parce que généralement ça va totalement de soi. On se pose pas des questions. Mais en fait, on a tous des tonnes de croyances au quotidien, c'est-à-dire des choses qu'on considère comme vraies, qu'on n'a pas à se forcer en fait pour croire. On n'a pas tellement à se poser la question, à essayer d'y croire. Ça fait simplement partie de notre carte du monde, de notre carte du quotidien. Ça nous aide à nous orienter. Et quand c'est faux, on s'en aperçoit, on se dit « Ah mince, alors, je croyais que la porte était ouverte, finalement elle était fermée, je croyais qu'il restait du lait dans le frigo, finalement il n'y en a plus. » Et notre croyance s'adapte immédiatement au changement perçu dans la réalité. Tout ça pose généralement strictement aucun problème. Ce qui pose problème, c'est des choses qui se font passer pour des croyances, qui ressemblent à des croyances, mais qui en fait n'en jouent pas tout à fait le jeu. Et là, on entre dans le registre de l'idéologie, de la politique, de la religion, des théories du complot, où on adopte certains propos, certaines doctrines, certains credos, d'une façon qui est totalement artificielle. On se force un peu à les avoir, et ensuite on cherche à les imposer, à les partager, d'une façon qui est un peu... on va dire peu spontané, un peu artificiel, un peu téléguidé. Et c'est ce côté un peu artificiel qui me fait penser qu'on n'a pas affaire à des croyances tout à fait ordinaires, et peut-être même pas des croyances du tout. Voilà.
Est-ce que les gens qui croivent sont indifférents à la vérité?
Oui, alors d'une certaine manière, une croyance, la seule chose qu'elle a à faire, c'est de traquer la vérité, ses forces de représenter le monde tel qu'il est. Et encore une fois, si on s'aperçoit que c'est pas le cas, eh bien, normalement, on abandonne ou on change, on adapte cette croyance. Une croyance, elle fonctionne pas du tout de la même manière. C'est même plutôt le contraire. Elle cherche à imposer une certaine vision de la réalité d'une façon qui ne traque pas du tout la réalité, mais d'une façon qui la fabrique, peut-être par imagination, peut-être par intérêt personnel. Il peut y avoir tout un tas d'autres raisons que le simple amour de la vérité. Et quand on affirme ce genre de croyance, il me semble que ça se rapproche un peu plus de l'opinion, des valeurs, d'idéologie, et c'est ça que j'appelle des croyances. Et on peut se méprendre sur le fait qu'on y croit ou non. En d'autres termes, ce que j'appelle croyance, c'est quand on croit qu'on croit quelque chose. C'est le cas de beaucoup de fake news ou de théories du complot. En fait, on n'y croit pas vraiment, mais on peut réussir à se convaincre ou en tout cas à se figurer qu'on y croit et que c'est ça qui consiste en croire.
Mais est-ce que justement la multiplication de ces croyances tient aussi sur un certain scepticisme de la parole scientifique ? On a parfois l'impression aujourd'hui que c'est son ressenti qui prime sur une parole plus officielle.
Oui, tout à fait, dans le sens où on préfère d'autres choses que la vérité pour atteindre des buts personnels ou sociaux, ou culturels ou idéologiques. On se désintéresse alors de ce que c'est que la vérité et on cherche à remplacer la vérité par quelque chose qui nous convient mieux, qui nous est plus utile au quotidien, au jour le jour. Et en particulier, pour former des alliances avec d'autres gens qui partageraient ces croyances. Ça sert à rien de s'accrocher à une théorie du complot à laquelle personne d'autre n'adhère ou qui n'intéresse absolument personne d'autre. Généralement, ce genre d'idées ou de propos qui circulent dans la société sert à se démarquer, à se positionner dans un camp ou dans un autre. Et c'est comme ça que d'ailleurs se forment beaucoup de ces croyances. Elles se forment par connexion et par contingence. Hein. Si, typiquement, si on croit à telle ou telle théorie du complot, ça va nous aider à adhérer à d'autres théories du complot. Le rapport qu'il y a, par exemple, entre la chloroquine et l'invasion de l'Ukraine, il semble quand même très éloigné d'un strict point de vue logique et scientifique. Et pourtant, on trouve des fortes associations entre ce type de propos ou de croyances que moi j'appelle croyances.
Alors pour tout savoir sur ces croyances, je vous renvoie à votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Elliott Croivet, Pourquoi la croyance n'est pas ce que l'on croit. Merci beaucoup Sébastien Dieguez.
Merci à vous, avec plaisir.
Et merci à vous Marie Sorbier. Et comme chaque soir, nous quittons ce studio, nous quittons Paris pour prendre des nouvelles d'artistes qui présentent leur travail un peu partout en France ou à l'étranger. Ce soir, nous sommes en ligne avec la metteuse en scène Maya Sandoz. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous mettez en scène avec Paul Moulin « Beaucoup de bruit pour rien » de Shakespeare. C'est au Théâtre des Célestins à Lyon jusqu'au 31 décembre. Avec votre compagnie, l'argument, vous n'avez monté jusqu'alors que des textes contemporains, même si le premier spectacle s'inspirait d'Hamlet. Alors, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de monter ce classique, enfin aujourd'hui, la création de 2021, mais pourquoi avoir voulu monter un classique et en l'occurrence donc Shakespeare ?
Alors, je dirais que dans un travail de compagnie, souvent les créations répondent aux précédentes. Et très souvent, après nos créations, on a tout le temps, enfin, très souvent des rendez-vous de lecture. Et avec tous ces textes contemporains, on avait régulièrement besoin de se replonger dans les classiques et de se faire plaisir entre nous. Voilà. Et régulièrement, tous les ans, il y a. Comme ça, un texte contemporain qui s'impose. Mmh. Et puis, il y a un moment, en 2020, ce texte contemporain ne s'est pas imposé. Et dans nos lectures entre nous, on s'est rendu compte que celle-là nous allait comme un gant. Donc, voilà, pour le plaisir, vraiment, la motivation première, c'était ça, pour le plaisir des acteurs et de la langue et de retrouver... les fondamentaux, voilà.
Alors vous dites comme un gant, mais quand même vous l'avez un peu retaillé ce gant, puisque avec Clémence Barbier, Paul Moulin et Paolo Sandoz, vous avez fait une nouvelle traduction de cette pièce. Pourquoi ?
On avait d'abord besoin de faire un travail d'adaptation pour plusieurs raisons, pas uniquement pour des raisons de temps, mais aussi pour des raisons de distribution. Donc il nous fallait retailler un petit peu, Et puis, moi, j'avais une attention particulière sur une espèce de d'équilibre de distribution pour que chaque acteur ait quelque chose à défendre. Et puis, dans les traductions qui étaient disponibles, il nous manquait la dimension, on va dire, théâtre dans le théâtre, c'est-à-dire qu'il y a un vocabulaire dans cette pièce qui a à voir avec le langage et la façon dont on se représente en société. Et on a un travail dans la compagnie comme ça de mise en jeu des acteurs eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on joue la pièce de Shakespeare, on raconte l'histoire de Shakespeare, mais on raconte surtout l'histoire de ces acteurs en train de raconter cette histoire. Et donc on avait besoin alors ça ne change pas du tout la trame et l'énergie de Shakespeare, c'est juste que parfois il y a des choix qui ont été faits et qui tendent et qui tirent vers cette option encore plus théâtrale que la pièce ne l'est. Voilà.
Beaucoup de bruit pour rien. C'est une comédie, même si elle est traversée de multiples sentiments. Vous dites que pour vous, la question de l'illusion, traitée ici, évidemment, est une question politique, éthique. Il faut préciser que vous co-signez la mise en scène avec Paul Moulin. Alors, quelle est la réponse théâtrale à ces questions politiques et éthiques? Quel est le geste de la mise en scène pour vous?
Oh, moi, je pense que la chose la plus importante, c'est l'adresse publique. C'est-à-dire que on a créé cette pièce au moment du deuxième confinement et le public nous a manqué énormément alors qu'on était avec une pièce qui toute shakespearienne, qui s'adressait vraiment frontalement et directement au public. Et donc, tout d'un coup, de pouvoir de nouveau partager un moment, être dans l'instant présent avec un public, ça a été pour nous très 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 important et ça a mis à jour vraiment ce théâtre shakespearien qui est un grand divertissement et en même temps un moment de partage et de fête, quoi. Essentiel.
Ouais. Quel est, Maya Sandoz, l'espace de jeu, la scénographie de ce spectacle? Parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans beaucoup de lieux, comme toujours chez Shakespeare. Mais comment est-ce que vous avez procédé, vous?
Oui, alors celle-là, cette comédie-là, elle est chouette parce que c'est vraiment 5 actes et 5 tableaux. Donc, on a décliné vraiment 5 images différentes qui ont à voir avec les rituels que Shakespeare met en jeu, qui sont le mariage, l'enterrement, le bal. Voilà, donc on a un dispositif, encore une fois, assez théâtral, avec des feuilles décor un peu pour de faux. Et on travaille aussi avec beaucoup de rideaux, des rideaux qui sont des rideaux qu'on a trouvés à l'opéra. Qui sont des rideaux un peu imposants, mais qui ont des belles matières et qui sont assez légères, mais monumentales. Donc, ça nous plaisait bien, ça aussi.
Vous évoquiez tout à l'heure le fait d'avoir créé ce spectacle pendant le deuxième confinement. Aujourd'hui, le public est là, est bien là. Et on sait que le public, il modifie quand même la représentation. Vers où ça emmène votre spectacle d'être enfin face au public?
Bah déjà, ça rend très très concret quelque chose qui peut être un peu théorique pour les acteurs de l'adresse directe. Et y a un dialogue qui se crée forcément, pas seulement des rires, mais des réactions. Et puis, on a conçu le spectacle en proposant au théâtre et aux relations publiques des théâtres de faire un travail avec un public amateur. Et donc, tous les soirs, il y a un groupe d'amateurs qui est dans la salle et qui vient jouer avec nous à un moment qu'on a répété en amont. Donc, en fait, ça accentue encore plus le lien. En plus, c'est des gens qui viennent des fois en famille avec leurs enfants et qui ont à un moment, il y a 7 minutes du spectacle où ils viennent jouer avec nous. Et c'est un prétexte, encore une fois, à approfondir la relation humaine, quoi. Voilà.
Merci Maya Sandoz pour ces quelques minutes passées avec nous pour parler de cette mise en scène de Beaucoup de bruit pour rien, mise en scène que vous co-signez avec Paul Moulin. C'est à l'affiche du Théâtre des Célestins à Lyon jusqu'au 31 décembre. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Como, Marie Sorbier, Apolline Limosino et Juliette Marcaillou.